soir, c'est le retour de toute la culture que j'aime sur IDFM Radio avec aux manettes Francky. Bonsoir à tous. Au programme de cette émission, eh bien, c'est une émission sur Molière. Nous parlerons de Tartuffe à la Comédie Française avec Sylvia Berger, grande comédienne sociétaire depuis plus de 30 ans. Et nous parlerons du Malade imaginaire au Lucernaire avec la metteuse en scène Alice Ringard. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est une émission consacrée à Molière. Et oui, il aurait 404 ans. On retrouve souvent d'ailleurs des thèmes, et alors il dénonce la religion, l'hypocrisie, la médecine. C'est ce qu'on va voir à travers Tartuffe et à travers Le Malade imaginaire. Molière, c'est quand même 33 pièces. Je rappelle qu'il a été petit-fils et fils de maître tapissier du roi. Donc Molière, Jean-Baptiste Poquelin, aurait 404 ans à 20 ans. Il fonde l'Illustre Théâtre avec Madeleine Béjart et il sillonne la France pendant 10 ans, 13 ans même, je crois. Voilà, et il écrit des farces, des comédies, ballets. Malgré la protection du roi, ça il faut le savoir, le Tartuffe, sa première version, et Don Juan, la version de 1665, sont interdites. Autre chose qu'il faut savoir sur Molière, c'est qu'il meurt quelques heures après avoir donné la dernière représentation du Malade imaginaire. Alors c'est quand même une coïncidence, vu qu'il a joué le rôle du malade dans la pièce. Voilà, chers auditeurs, donc nous allons parler de deux pièces de Molière. Et je peux quand même vous conseiller un film sur la vie de Molière. C'est un film de 1978 avec Philippe Cobert, réalisé par Ariane Nouchkine. Voilà, donc on parle tout de suite de Tartuffe.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Bonsoir, vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous recevons Sylvia Berger de la Comédie Française. Bonsoir.
Bonsoir.
Très, très heureuse que vous ayez pu répondre à cette interview. Alors voilà, on va quand même parler de votre parcours exemplaire dans le milieu du théâtre. 36 saisons dans la troupe de la Comédie Française, de multiples rôles. Voilà, en 2026, là, tout récemment, Madame Jourdain dans Le Bourgeois, plein de projets pour 2026-27. Mais là, nous allons parler du Tartuffe. Le Tartuffe ou l'Hypocrite, pièce de la Comédie Française, mais délocalisée hors les murs, attention, à la Grande Halle de la Villette. Tartuffe se joue jusqu'au 11 juillet, c'est ça. Absolument. Et vous interprétez le rôle de Dorine.
Voilà.
Donc c'est une aventure fantastique. Bon, la pièce a été créée il y a 4 ans, en 2022, oui. Hein, mais vous, la troupe la reprend. Alors je voudrais commencer d'abord par dire, parce que c'est une version, une autre version de Tartuffe.
Oui,
c'est
absolument.
Celle de 1664, qui a été interdite d'ailleurs à l'époque.
Oui, qui a été représentée qu'une fois et qui a été interdite pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était donc le Tartuffe était un vrai dévot, que la pièce est en trois actes et beaucoup plus sombre que celle qu'on connaît. Et comme elle a été interdite par le clergé parce qu'elle mettait en cause le clergé et sa façon de
d'être hypocrite parfois.
Oui, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire de supplanter absolument tout intérêt pour le maître de la maison qui est Orgon et toute la famille, d'éloigner toute la famille, d'éloigner Orgon de sa famille et d'en devenir le seul héritier. En convoitant la femme de celui qui prétend amener vers le ciel, vers la pureté, comme un gourou, comme une sorte de gourou.
Oui,
et des mensonges Et donc, bien sûr, cette pièce avait été interdite et Molière l'a retravaillée au personnage. Notamment, il a ajouté une sœur au fils de la famille, Adamis, donc Marianne, un amoureux, Valère, et surtout, à la fin de la pièce, il faisait venir l'exempt qui était le représentant du roi, qui rendait justice et qui rétablissait l'ordre en mettant en prison Tartuffe, qui, dans la deuxième version, est un faux dévot. Donc, oui. Il avait un peu adouci tout ça, rendu un petit peu plus léger. Il y avait un esprit un peu plus de comédie, notamment la scène des amoureuses, qu'on appelle la scène des amoureux en général, entre Valère et Marianne. Alors que la première version est beaucoup plus âpre, beaucoup plus... sombre, comme je disais.
Oui, c'est ça, Sylvia Berger. Comme vous disiez, hein, ça c'est donc la première version de 1664, qui est beaucoup plus une critique directe à la religion, en tout cas aux faux dévots, ceux qui se prétendent dévots, dont Tartuffe. Voilà, là on est vraiment, on est un peu dans la dénonciation. Alors la pièce est mise en scène par
Ivo Van Hove.
Oui, voilà, Ivo Van Hove, figure internationale, hein, bien évidemment. 140 spectacles, bon, les damnés, voilà, il a déjà travaillé avec vous.
Oui, j'ai déjà travaillé avec lui deux fois sur les damnés et Electro-Rest.
Electre et les damnés, bon, à l'Odéon, il travaille beaucoup, à l'Opéra pour Boris Godounov, Don Giovanni, etc. Donc c'est un metteur en scène de la très très renommée aujourd'hui, hein, de la scène contemporaine. Alors lui, quand même, il faut dire qu'il accentue sur la relation charnelle entre Elmire et Tartuffe. Bon, oui, c'est une interprétation. Voilà.
C'est une vision contemporaine. Met en avant l'emprise à la fois de Tartuffe sur Orgon. Là aussi, c'est une vision très physique. Il y a une transe à un moment. Il y a quelque chose de très envoûtant. Et entre Tartuffe et Elmire, c'est effectivement un amour. Il met en scène un Tartuffe qui tombe amoureux d'Elmire et Elmire qui est troublée par les avances de cet homme jeune, séduisant, puisque c'est Christophe Montenez qui joue Tartuffe. Alors qu'elle est délaissée par son mari depuis que Tartuffe est arrivé, son mari ne s'occupe plus du tout d'elle. Donc elle est extrêmement troublée et voilà, c'est assez ambigu, mais c'est effectivement une vision très très physique et charnelle.
Et charnelle. Alors
et sensuelle.
Et sensuelle. Elmire, je rappelle, est la... Oui, tout à fait, jouée par Marina Hans, et la femme d'Orgon. Orgon, hein. Orgon oui. On le rappelle quand même à nos auditeurs, qui est totalement subjuguée par Tartuffe, et qui le croit...
C'est vraiment sous emprise. Voilà. Vraiment, il ne pense plus qu'à travers lui. Du reste, c'est ce que dit Dorine dès la deuxième scène, quand elle décrit au frère d'Elmire, Cléante, qui est Tartuffe, et la façon de se comporter d'Orgon vis-à-vis de Tartuffe, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est de tous ses secrets l'unique confident et de ses actions le directeur prudent. Le choix, il l'embrasse et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. Voilà, tout est dit.
Oui, alors c'est un peu ce qu'on disait, c'est que on n'a pas l'impression que le plus important dans cette mise en scène est finalement la religion. Voilà.
Non, c'est plus l'emprise d'un homme sur un autre, on pourrait dire.
Oui.
Et capable de lui faire oublier absolument. Tout ce qui lui importait, à commencer par sa famille, et il est prêt, il maltraite son fils, c'est extrêmement violent, il y a une bagarre, enfin il le maltraite physiquement de façon très très violente, pour protéger cet homme qu'il croit, pur, qu'il croit absolument doué de toutes les la sagesse divine.
Oui. Alors, revenons à Dorine, donc votre rôle. Bon, dans la version de 69, enfin la deuxième version, on va dire, elle a un rôle capital, central. Qu'en est-il pour la version, cette version que vous jouez, la version l'hypocrite, Tartuffe ou l'hypocrite, est-ce qu'elle a toujours ce rôle? Alors moi j'ai ma petite idée, mais je vous la pose à vous. Ouais. Est-ce qu'elle a toujours ce rôle de quand même, enfin déjà, on va dire pas toujours, déjà ce rôle en 1664, de contestataire, de la voix du bon sens, voyez, oui. L'opposante à Tartuffe qui veut aider Marianne, sa maîtresse, déjà, dans la première version.
Marianne dans la deuxième version, parce que dans la
première... Oui, bien sûr.
Oui, absolument. Oui, elle l'a, d'ailleurs, dès la première scène, Madame Pernelle, la mère d'Orgon, le lui dit. Vous êtes, Mani, une servante fort impertinente. Donc, dès le début, on sent que c'est un personnage, elle est décrite comme un personnage qui tient tête à tout le monde, qui a le verbe haut, qui dit ce qu'elle pense et à qui que ce soit à Tartuffe, que ce soit à Orgon ou que ce soit à Pernelle. Elle se gêne pas.
Et est-ce qu'elle a aussi un rôle moteur pour calmer Orgon?
Oui, notamment dans la scène, une des dernières scènes qu'elle a avec Orgon, elle vient prévenir Cléante, donc le frère d'Elmire, qu'il faut qu'il intercède en faveur de Damis qui vient d'être déshérité et qui doit quitter la maison. Elle dit elle-même, son père vient, joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Donc déjà, elle essaie de réunir tout le monde pour sauver Damis. Et ensuite, c'est elle qui prend la parole. Une fois que Orgon revient en disant « Voilà, j'ai cette lettre qui déshérite mon fils et qui fait que je le chasse, je persiste et signe, je le chasse de la maison », c'est elle qui intervient tout de suite en lui disant vous devez prendre soin de votre fils. Il la rabroue et elle continue en lui disant je ne parle que pour votre intérêt, vous ne pouvez pas faire ça. Toute la scène, c'est ça. Et ensuite, il y a évidemment Elmire. Cléante essaie d'intervenir, il est rabroué aussi. Et ensuite, il y a la scène d'Elmire et Orgon, où Elmire lui propose, donc sa femme, lui dit « Très bien, puisque vous ne vous croyez pas, je vais vous mettre dans la situation de tout voir et tout entendre, et comme ça, vous verrez qui est votre homme de bien. »
Voilà, et ensuite, elle va, il va découvrir qui sont ces personnages. Sylvia Berger, donc je le disais tout à l'heure, hein, vous êtes sociétaire de la Comédie Française depuis plus de 35 ans. Être dirigé par Ivo Van Hoff, c'est un pari, c'est un match, c'est...
Non, pas du tout. Ben non, mais encore une fois, moi, je le connais pour avoir travaillé deux fois avec lui déjà. J'avais vraiment découvert sa façon de travailler sur les damnés. Et ça a été un moment très important pour moi. C'est une façon d'être... immédiatement, c'est très proche d'un travail à la caméra, par exemple, et il y a un carré qui est délimité, et c'est seulement à partir du moment où vous mettez un pied dans ce carré-là que vous devez être en action. Ça change un petit peu de ce qu'on peut faire d'habitude sur d'autres scènes, où à partir du moment où on est de l'autre côté du rideau, où on met un pied en scène, on est en action, là on est à vue du public et le moment de se mettre en action est retardé un petit peu Donc il y a quelque chose, il y a un lâcher prise qui est demandé, il y a quelque chose de l'immédiateté qui est demandé et qui est passionnante.
Ouais, une sincérité. Vous restez avec nous, on fait une pause musicale et on reprend tout de suite. On va écouter Serge Gainsbourg, Sensuel et Sans Suite. À tout de suite.
À tout de suite.
Une histoire sensuelle et sans suite, ça fait crack, ça fait chit, crack, je prends la fille et puis chit, je prends la fuite. Elles en pincent toutes pour ma pomme cuite, je suis un crack pour ces petites, crack, les v'las sur le dos. J'en profite. Leur petit cœur palpite tandis qu'elle s'excite, qu'elle s'envoie au zénith. Elles sont gonflées, ouais, mais très vite elles craquent. Et alors chut, craque, c'est les nerfs. Et puis chut, et comme une fuite. Et l'histoire sensuelle et sans suite, ça fait crac, ça fait fuit. Crac, je prends la fille et puis fuit, je prends la fuite. J'aime jouer avec la dynamite. Quand ça craque, ça fait fuit. Crac, j'allume la mèche. Et puis, je m'excite. Leur petit cœur palpite tandis qu'elle s'excite, qu'elle s'envoie au zénith. Ces histoires sensuelles et sans suite, ça fait crac, ça fait huit. Crac, je prends la fille. On a fui.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Sensuel et Sans Suite de Serge Gainsbourg. Nous sommes toujours avec Sylvia Berger de la Comédie Française. Rebonsoir Sylvia.
Rebonsoir.
Qui nous parle du Tartuffe version de toute première version, hein, très peu connue, hein. Le Tartuffe,
ben, oui. Ouais. Inconnu, totalement inconnu, puisqu'en fait elle a été reconstituée par le grand spécialiste de Molière, Georges Forestier, et à partir d'écrits, et il a reconstitué cette première version dont on n'avait pas de traces.
Oui, 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 qui a
donc
été jouée.
C'est vraiment une découverte. Le public qui vient est lui-même surpris d'entendre cette première version parce qu'elle était totalement méconnue.
Oui. On parlait tout à l'heure de la mise en scène de Ivo Van Hoff. Alors là, pour ce qui est de la scénographie, c'est un peu, oui, c'est très, enfin pas électrique, mais il y a des effets stroboscopiques, espèce de grande structure métallique. La musique est importante aussi.
Très ritualisée.
Oui.
C'est toujours dans les mises en scène d'Ivo Van Hoff, il y a sont vraiment des mises en scène très souvent très ritualisées, ce qui était déjà le cas dans Les Damnés. J'ai un ami qui est venu voir le spectacle et qui disait que il avait l'impression de voir le rituel du théâtre et qu'en fait il y a des jeunes gens qui sont dans le fond du théâtre et qui apportent les accessoires ou les chaises, des places, et qui sont en observation en permanence, et qu'il avait l'impression que c'était la représentation du théâtre et que ça donnait l'impression que on allait refaire, que ces personnages étaient là pour chaque soir redonner ce rituel et représenter cette pièce.
Quand vous parlez de rituels, c'est des rituels entre vous ou des rituels
Non, sur le plateau, il y a ce salut qu'on fait avant de commencer les scènes. Il y a ces entrées qui sont extrêmement chorégraphiées. Il y a une musique, il y a un flash de lumière. Donc c'est vraiment, c'est très, très à la fois chorégraphié et vraiment fait comme un rituel. Comme un peu les sumos qui se saluent, on a exactement ce même rituel avant de commencer les scènes.
Ah, des codes entre vous.
Oui, enfin, ça fait partie de cette mise en scène-là. Avant de commencer chaque scène, il y a ce rituel de la rencontre de ces personnages. C'est ce moment-là précis. Mm-hmm. Et puis, à partir du moment où il y a ce flash de lumière, la scène commence. Et c'est alors, ça aussi ce que je racontais par rapport à cette immédiateté et ce moment où on est à la fois présent sur le plateau puisqu'on est à l'extérieur de ce carré blanc, mais que la scène ne commence qu'à partir du moment où on met le pied dans le carré blanc.
Ouais. Et puis il y a ces lettres qui apparaissent d'être blanches sur fond noir. Avec des questions que l'on peut se poser en effet. Madame a-t-elle raison? Alors là, on parle de qui? On parle de la femme. On parle de la femme d'Orgon.
Oui, d'Elmire.
C'est ça, hein?
Oui.
Voilà, des questions comme ça. Ces questions, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous fait nous poser des questionnements sur la pièce. Voilà. Qu'a voulu nous dire Molière dans cette première version?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis ça va au-delà même de la religion, c'est ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que Ivo Van Hove, lui, il la sent très vraiment, tout son travail, enfin beaucoup de son travail en tout cas, est axé sur la violence à l'intérieur des familles. C'était le cas dans Les Damnés, c'était le cas dans Electro-Rest, dans Hamlet. Là, c'est aussi la violence à l'intérieur de la famille où cet homme, le patriarche, tout d'un coup abandonne, nie toute sa responsabilité et fait entrer cette ultra-violence au sein de la famille. Et ça dépasse bien sûr le simple domaine de la famille. On peut y voir aussi un reflet de la société. Mais c'est ça aussi qui est joué, qui se joue à cet endroit-là.
Oui, c'est-à-dire qu'Orgon quasiment délaisse sa femme un moment.
Sa femme, mais son fils, tout, il abandonne tout pour suivre aveuglément cet homme qui, quelque temps avant, était un gueux, comme dit Dorine.
Oui, parce que la pièce commence comme ça, en fin de compte. Ouais. Tartuffe, il était un peu, un clochard, mais enfin un homme de un vagabond sans abri.
Voilà.
Voilà. Et on le voit en train de se faire laver dans une baignoire. Et puis après, il se lève et il va avoir de l'importance pour cette famille, justement.
Il va prendre le pouvoir sur cette famille grâce au père de la famille, grâce à Orgon, qui est complètement subjugué. Dont toute la volonté est annihilée par cet homme.
Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on se demande en effet, c'est un peu ce qu'on disait au début, quel est le message au départ de Molière? Voilà, est-ce que c'est la famille fausse, la famille dans laquelle il y a de toute façon déjà des conflits, ou est-ce que c'est la religion? Bon, voilà, c'est la question. J'engage nos auditeurs aller voir cette version parce que ça soumet vraiment des questionnements. Dernière question, vous aviez déjà joué avec Marina Hans dans quelle comédie?
Mais quelle comédie qu'elle avait mise en scène avec Serge Bagdasarian, oui, absolument. Oui.
Voilà, donc pareil, un monument du théâtre. Hein, là, vous
oui.
êtes.
Elle est magnifique, oui. Et là, c'est Thierry Ancis qui joue Orgon. À la création, c'était Denis Podalydès. Comme moi, c'était Dominique Blanc qui avait joué Dorine. Christine Bruchère qui remplace Claude Mathieu dans cette version.
Oui, très bien. Alors, donc, Tartuffe se joue jusqu'au 11 juillet à la Grande Halle de la Villette. Attention, hein, la Comédie Française est délocalisée, hors les murs.
Hors les murs.
Vu
oui.
qu'il y a des travaux, c'est bien ça, Sylvia Berger ?
Absolument, oui, qui doivent se terminer fin juillet. Et on retrouve notre salle le 15 octobre donc, avec Ruy Blas, dans lequel je serai.
Oui, Ruy Blas, bien sûr,
Mis
Victor Hugo.
Mis en scène par Julie Duclos.
Ah oui. Oui, je crois que vous avez deux productions d'ailleurs pour 2026-27.
J'en ai trois. Ruy Blas, et donc j'ai oublié de citer aussi Loïc Corbery qui est en alternance avec Stéphane Barupen dans le rôle de Cléante. Et Stéphane Barupen va jouer le rôle titre de Ruy Blas, donc à la rentrée, le 15 octobre. Ensuite, on reprend le suicidé que Stéphane Barupen avait mis en scène l'année dernière, donc je serai dedans aussi. Et ensuite, à partir d'avril jusqu'à juillet, je reprends le bourgeois gentilhomme.
Oui, le bourgeois. Très bien. Bon, bah, voilà. Alors vraiment, on va vous suivre, hein. Donc, Tartuffe ou l'hypocrite, Comédie Française jusqu'au 11 juillet. Je crois qu'on a cité tout le monde, hein.
Voilà.
Thierry Ancis, Loïc Corbery, Stéphane Varoupen, Christophe Montenez, Julien Frison.
Oui, Julien Frison, c'est vrai, je l'ai pas cité, oui. Qui joue Damis,
Le pauvre fils d'Orgon qui se fait maltraiter.
Ah, horrible. J'essaie de le protéger au plus. Enfin, voilà. Dorine, je veux dire.
Marina Hans, la femme d'Orgon, Elmire, et Christine Brucker, la mère d'Orgon. Bah, je crois qu'on a Madame tout dit. La musique d'Alexandre Desplat.
Voilà.
Très bien. Bah, merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
On écoute tout de suite Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter et on se retrouve tout de suite après.
J'étais assise sur une pierre. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Dans le ciel, maître de l'espace. Il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a si souvent envie de voiler la face. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en accourent en terre passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en veux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fier. Dieu me donnait la foi, brûle le fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, à qui je ne sais quoi. sais quoi. J'ai dans le cœur cette femme qui ne m'est pas. Dieu est là en moi pour toi. C'est la lumière qui guide nos pas. Dieu est là moi, pour toi, c'est ça. C'est la lumière qui guide nos pas.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Nous venons d'entendre Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi. Nous restons toujours chez Molière. Et oui, c'est une émission dédiée principalement à Molière. Et cette fois-ci, nous parlons du malade imaginaire avec Alice Ringard. Bonsoir.
Bonsoir Agnès.
Voilà, vous êtes la metteuse en scène du malade imaginaire qui se joue actuellement au Lucernaire, également comédienne. Nous venons de parler de Tartuffe ou l'hypocrite à la comédie française avec Dorine, Sylvia Berger. Alors voilà, c'est quand même une super coïncidence, vu que vous jouez Dorine, mais dans le malade imaginaire.
Exactement. Et Dorine n'existe pas dans le malade imaginaire. Exactement. À la base. C'est un choix que j'ai pris en tant que metteuse en scène. À la base, nous avons dans le malade imaginaire ce qui est coupé le personnage de Polichinelle, qui intervient dans les intermèdes, qui sont souvent supprimés entre les intermèdes entre chaque acte. Et moi, c'est quelque chose que je souhaitais reprendre pour reprendre un rythme qui ressemblait à celui qui était à la base. Et donc, j'ai repris donc le personnage de Polichinelle, mais j'avoue que pour actualiser, je ne souhaitais pas avoir juste un homme. Et j'ai créé un petit duo et je cherchais une comparse espiègle. Et j'ai récupéré Dorine de Tartuffe. Je me suis octroyé cette petite...
Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, on va rappeler pour nos auditeurs le pitch du malade. C'est Argan, un riche bourgeois qui est convaincu d'être gravement malade. Il décide de marier sa fille à un médecin, voilà. Thomas Diafoirus. Qui est un jeune médecin ridicule, dont elle n'est pas du tout amoureuse. Mais lui, il veut un praticien à domicile. Alors, grâce à, heureusement qu'il y a Toinette, hein, qui se déguise en médecin, qui, elle, est lucide, et elle va, elle va dénoncer la médecine dogmatique, elle défend le bon sens.
Exactement. C'est vraiment une pièce où les valets remettent vraiment en question la place du sachant, en fait. Et d'ailleurs, par rapport à d'autres œuvres de l'époque, les valets sont capables d'ourdir des plans complexes et ils sont pas cantonnés dans cette œuvre à une place de potiche, on va dire ça comme ça.
Oui, je voulais juste rajouter, c'est la dernière pièce de Molière et il meurt finalement quelques heures après la dernière représentation du malade imaginaire.
Oui, tout à fait. Alors après, la légende dit qu'il est mort sur scène, mais bon, il semblerait que non. Mais est-ce qu'on n'est pas susceptible de garder les légendes dans le théâtre
pour
imaginer des choses, pour pouvoir rêver un peu? On est là pour ça avec le théâtre.
Oui, donc voilà, on a resitué en tout cas l'histoire. Revenons à votre mise en scène. Hein. Donc vous avez imaginé deux, comme ça, on va dire quoi, des valets fripons qui vont nous parler et qui s'adressent à nous, hein, finalement.
Exactement, c'est deux petits valets fripons, donc Polichinelle, je disais, qui existait déjà dans la pièce à la base, qui vont créer cette immense mascarade qu'est la pièce finalement, pour se moquer de Argan et pour dénoncer quand on est aveuglé par le sachant. Et donc ce sont deux valets qui vont casser le quatrième mur, échanger avec le public pouvoir avoir une relation avec le public plus aisée.
Oui, ça c'est une très belle idée de mise en scène. Et il y a également votre univers steampunk. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Là, c'est quoi? C'est les industriels du 18e, c'est...
Exactement, c'est... Alors, on peut dire cabinet de curiosité ou alors un univers un peu Jules Vernesque. C'est un univers où la mécanique a beaucoup d'importance et je trouvais que ça, même si ça, par rapport au théâtre, même si ça émane de contextes un peu différents, ça partage un terrain commun pour la capacité de réinventer la réalité. Et donc tout ce côté avec la machination, tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au théâtre. Et surtout, je cherchais un univers qui puisse faire le pont entre les générations. Et je trouvais que cet univers, alors Jules Verne ou steampunk, selon l'âge qu'on a, rassemblait les générations parce que évidemment, les plus âgés, on connaît tous Jules Verne et cet univers-là. Et puis on retrouve le steampunk dans les jeux vidéo, beaucoup dans les mangas. Donc les plus jeunes aussi, c'est un univers où ils peuvent s'identifier.
Oui, alors là, c'est vrai que on passe finalement du 17e siècle au 19e, avec ce cabinet de curiosité très beau, très ingénieux, des matériaux bruts. Qu'est-ce qu'on a? On a une espèce des valises entassées, des vieilles valises, on a des vieux transistors des années 1900 peut-être.
Oui, tout à fait, on a des vieux transistors, des vieilles radios. Qui est assez drôle pour un univers d'un malade et de la médecine, et des radios qui permettaient de faire référence donc à cet univers, et puis surtout qui me permettaient d'être plongé dans le cerveau encombré de ce malade incapable de s'échapper de ses angoisses.
Tout à fait. Donc je rappelle juste aux auditeurs, nous parlons donc du malade du malade imaginaire, pardon, qui se joue au Lucernaire. Pourquoi est-ce que vos deux petits rajouts de personnages, pourquoi ont-ils des casques? Casques et lunettes d'aviateur.
Alors ça, c'est justement par rapport à l'univers du steampunk, qui est quand même un univers très, très codifié, avec des personnages comme l'aristocrate, donc nous, forcément Argan, les scientifiques, donc forcément les médecins, et donc les personnages très connus du steampunk, ce sont les aventuriers qui sont avides de découvertes et qui veulent explorer les nouveaux mondes. Et donc c'était en référence à ces personnages d'aventuriers que Dorine et Polichinelle sont coiffés d'effectivement ce bonnet... un petit peu de pilote d'avion, on dirait, quelque chose comme ça.
Voilà, que vous arborez et que vous changez, bien évidemment, pour redevenir Angélique. On rappelle votre rôle, donc Angélique, la fille que Argan veut marier à Thomas Diafoirus, ce médecin dont elle n'est absolument pas amoureuse. Alors, comment est-elle, cette Angélique? Est-ce qu'elle arrive à se rebeller quand même contre son père Argan?
Eh ben, Angélique est la jeune première de la pièce, mais elle est quand même rebelle. Et souvent, j'ai trouvé dans les précédentes mises en scène que j'ai pu voir, on ne montre pas trop la rébellion de cette Angélique. On la cantonne à ce rôle de jeune première, alors que elle a toute une scène avec sa belle-mère Béline, où elle envoie elle envoie vraiment sa pensée en disant qu'il y a des femmes qui ne se marient que pour l'argent et tout ça. Et donc, en fait, elle n'est pas juste la naïve jeune première. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaitait mettre vraiment en avant, que c'est quand même un personnage rebelle qui a sa propre pensée et qui ne s'en se contente pas à être la jolie petite jeune fille, quoi.
Oui. Alors, vous restez bien avec nous, Alice. On fait une pause musicale. On écoute le groupe Seal, Crazy. On vous reprend tout de suite.
A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep.
fractal on a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. Yeah, the people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Crazy de Seal. Alice Rajar, vous êtes toujours avec nous?
Tout à fait.
Voilà, on continue avec le malade imaginaire au Lucernaire, qui se joue, on donnera peut-être les dates, mais qui se joue une partie de cet été, hein, madame Alice?
Ah, jusqu'au 30 août, donc tout l'été.
D'accord. Tout l'été. Quels sont les alors parlez-nous un peu des différents personnages, puisque vos comédiens interprètent chacun plusieurs rôles.
Oui, tout à fait. On va avoir Jacques Train ou Serge Ayala qui vont interpréter donc le personnage de Polichinelle dont on a déjà parlé, qui est donc marionnettiste de l'histoire. Ils vont aussi interpréter Cléante, le jeune amoureux de Angélique dont on a parlé. Thomas Diafoirus, qui est le prétendant au mariage pour Angélique, qui est un jeune médecin aussi prétentieux que ridicule. Et il joue aussi Bérald, qui est le frère d'Argan, qui lui est un homme posé, qui a des idées très arrêtées et surtout très révolutionnaires sur son temps d'ailleurs. Il pense que le mariage doit être un mariage d'amour. Ce personnage est un peu le reflet de la pensée de Molière sur le recul qu'il faut avoir sur les personnages comme les médecins. Ah oui, et Jacques et Serge interprètent évidemment aussi Béline, la belle-mère vénale, qui cherche uniquement à récupérer l'argent de Argan.
Oui, ben on va pas tout révéler, mais on voit bien vers la fin de la pièce, lorsque Argan simule d'être mort.
Oui.
Là, c'est très drôle parce qu'on voit tout de suite la réaction de cette femme, de sa femme en fait, de sa deuxième épouse.
Tout à fait, exactement. Voilà. Oui, c'est très drôle. Bon, après c'est Molière, donc je ne peux dire que c'est très bien écrit et que. Et derrière la farce et l'humour, il dénonce beaucoup de choses. Et c'est ça qui est formidable dans cette pièce.
Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Excusez-moi de vous couper. C'est ce qu'on disait avec Sylvia Berger de la Comédie Française, qui joue en ce moment Dorine dans Tartuffe. C'est que Molière a voulu dénoncer la médecine, d'ailleurs la médecine, l'hypocrisie, la religion. Et là, dans le malade imaginaire, c'est ça quand même. Il veut quand même parler de la médecine de l'époque. C'est une caricature.
Ah mais complètement, complètement. Et je trouve que c'est ça qui est absolument super dans cette pièce, c'est que derrière le côté, on va dire farce. Humour très drôle, puis même quelquefois un peu même scatologique sur le côté médecine. En fait, on se moque complètement des médecins, on se moque de Argan le maître. Il y a une vraie remise en question de la figure d'autorité. Il y a un vrai message qui est très important.
Tout à fait. Et ça, souvent, Molière prend des personnages annexes, en effet, comme Cléante, comme Dorine, qui sont des leviers pour contrecarrer le patriarche.
Exactement, c'est exactement ça. Il y a tous ces petits personnages qui tournent autour du rôle-titre, là, qui est Argan, qui est joué par Boris Raven et au mois d'août, qui sera joué par Damien Vigouroux. Tous ces petits personnages sont là pour révéler la pensée de Molière, finalement.
Oui, je vous laisse, chers auditeurs, aller découvrir cette magnifique... C'est une création, hein ? Création du malade imaginaire. C'est tout nouveau, tout neuf.
C'est tout neuf, oui.
Voilà, vous en êtes le metteur en scène, hein, Alice Rajar. Vous jouez également deux rôles dans la pièce.
Un peu plus, en vrai.
Un peu plus, même.
Oui, je joue Dorine, Angélique, le notaire Monsieur Bonnefoy, Monsieur Diafoirus, Monsieur Purgon et Monsieur Florent.
Ouais, donc ça vous fait beaucoup de.
Mais c'est des petits rôles.
Des petites apparitions, ça vous fait beaucoup de changements de costumes. Un mot sur votre parcours. Bien évidemment, vous avez fondé votre compagnie, vous avez joué dans beaucoup de spectacles, que ce soit des classiques ou des plus contemporains. Dernièrement, vous avez fait un stage avec Charlotte Maznev.
Tout à fait.
Sur le cercle de Craig Ocasien, qui se joue actuellement au Moins Molière.
Exactement, oui, oui, Charlotte, nous avons fait la même école, qui est l'école Claude Mathieu. Donc, on a forcément des similitudes dans notre façon de travailler. Et c'est une metteuse en scène que j'admire énormément, en plus de la personne que j'aime beaucoup.
Merci beaucoup, Alice Ringard. Donc, Le Malade Imaginaire au Lucernaire, c'est un spectacle à partir de tout public à partir de 10 ans. Vous en êtes le metteur en scène. On va peut-être citer vos comédiens. Il y a Marion.
Avec grand plaisir. Il manquait, j'ai parlé des garçons, et il manquait Marion Champenois qui interprète Toinette. Et après, évidemment, un spectacle ne se cantonne pas aux comédiens. On va avoir Guillaume Rouchet qui a créé les lumières, Cyril Romoli les musiques, Christine Vellers les costumes. C'est vraiment une foultitude de monde pour arriver à un spectacle.
Et ces décors de cabinet de curiosité, qui en est à l'origine?
Donc je les ai inventés et je les ai fabriqués avec mon frère. J'ai la chance de travailler en famille, donc avec Axel Ringard, et la création des masques de médecins de la peste sont de Anne Ringard. Voilà.
Merci beaucoup, et je rappelle que vous avez monté ce spectacle avec la Compagnie du Néant. Merci Alice Ringard. On écoute tout de suite Imagine de John Lennon.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Nous venons d'entendre Imagine de John Lennon. L'émission touche à sa fin. Je voulais vous faire part de mes coups de cœur pour finir l'émission. Le mois Molière, vu qu'on est toujours une émission sur Molière. Donc demain, samedi 27 à 20h30, dimanche 28 à 17h30, le roi se meurt à Versailles dans le cadre du mois Molière, mise en scène par Mélanie Leduc. C'est une version d'1h30, la compagnie À tout va. Et également dans le mois Molière, vous avez La Belle Hélène et les garçons, mardi 30 juin à 20h30, d'après Offenbach. Là, c'est une mise en scène de Nicolas Rigas. Voilà, je vous propose d'aller voir leur site, le site du mois Molière, vu que toutes les représentations durent jusqu'à mardi et c'est à Versailles. Vendredi prochain, vous retrouverez Marie-Laure. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Très bonne soirée.
IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Connaissez-vous des compositrices ? Du 5 juin au 5 juillet, le festival Intemporel pose ses valises dans les plus beaux sites patrimoniaux du Val d'Oise. 10 concerts, 5 lieux exceptionnels et surtout la découverte de dizaines d'œuvres rares ou inédites. Un parcours musical autour des chants du monde à découvrir en compagnie des plus prestigieux interprètes. Réservation sur www.festivalintemporel.com avec le soutien du département du Val d'Oise.
Qu'est-ce que vous voulez, bordel ?
La vérité, capitaine !
Ici, la clé de l'assassinat de JFK reposait dans les mains d'un seul homme.
Le 22 novembre 1963, est-ce que cette date vous dit quelque chose ?
2 comédiens, 4 destins, un secret d'État.
Dans les affaires de votre père ? Il y a sûrement quelque chose qui m'aiderait à prouver tout ce que je viens de vous expliquer.
Entre complot, trahison et quête de vérité, découvrez la première fiction théâtrale autour de l'un des assassinats politiques les plus fascinants du XXe siècle.
Je trahis toutes les valeurs que vous m'avez enseignées.
Le courage est la valeur qui définit toutes les autres, Ethan. L'heure est aux hommes de courage.
Kennedy des Hommes de Courage, à découvrir du 4 au 25 juillet au Théâtre Barreta à 20h30 au Festival d'Avignon OFF 2026.